Popopienne, Popopien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est Podcasty. Autrement dit, le jour où Popopop se transforme en Popopodcast. Comme l'alvin se transforme en anguille, le souriceau en souris, le marcassin en sanglier, le tétard en grenouille, le poulain en pur sang, le crocodile en sac à main. Et je pourrais continuer ainsi des heures et des heures. Mais après, vous me reprocheriez de parler pour ne rien dire. Et je vous rappelle que selon Saint-Pierre d'Ac, parler pour ne rien dire et ne rien dire pour parler sont les deux principes majeurs et rigoureux de tous ceux qui feraient mieux de la fermer avant de l'ouvrir. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur un studio de podcast né à l'initiative de Martin Solveig et à l'intention de sa fille Alma, 3 ans à l'époque, qui peinait à trouver le sommeil. C'est donc un papa soucieux du bien-être de sa progéniture qui va nous expliquer que le subterfuge auquel il a eu recours pour calmer celle-ci lui a permis, sans le savoir, de donner naissance à ce que d'aucuns ont déjà baptisé le Netflix du podcast. Si vous êtes vous-même...
Du podcast enfant.
Du podcast enfant, bien sûr. Si vous êtes vous-même des parents attentionnés ou que vous ayez l'intention de le devenir, ou plus simplement encore des enfants amateurs d'histoire pour faire dodo, eh bien ce Popo Podcast est fait pour vous. Popo Podcast, épisode 22, c'est parti.
France Inter. Popopop. Antoine de Gaulle.
Et bonjour Martin Solveig.
Bonjour Antoine, et merci beaucoup de m'accueillir dans ce magnifique studio.
Mais c'est mon plaisir, et bienvenue dans Popo Podcast. Mais avant toute chose, arrivez-vous à prononcer correctement le nom de cette émission, s'il vous plaît.
Popo Podcast.
C'est un peu lent.
Popo Podcast.
Bien, essayez de faire dormir les enfants après avoir gardé et veillé des nuits entières les clubbeurs. Est-ce que ce n'est pas étrange et paradoxal comme sentiment, Martin ?
C'est vrai, c'est bien vu et on ne l'avait pas présenté, on l'avait pas présenté comme ça, bien vu. C'est un passage de relais, un passage de témoin. Cette application Alma Studio s'adresse aux enfants et donc aux futures générations. Mmh. Et avant... qu'il passe des nuits sans sommeil. Je pense que tout le monde a envie qu'il passe des nuits avec un beau sommeil, parce que c'est un moment très important pour leur construction.
Attendez, j'en ai pas fini, nous allons en parler jusqu'à 17h, mais potentiellement essayer de faire dormir les enfants de clubbeurs qui se sont rencontrés pendant vos sets de DJ, est-ce que c'est pas encore plus étrange comme
sentiment ? Non, on fait dormir les enfants des parents clubbeurs. Voilà, il faut être honnête.
Et qui se sont éventuellement rencontrés...
C'est le cas de mon épouse et moi-même.
Voilà, pour commencer. Bien, la boucle est bouclée ou le loop est loupé, si j'en crois ce bouton qui est sur vos platines. La boucle est bouclée et le loop est loupé, si j'en crois ce bouton qui est sur vos platines. Aujourd'hui, Martin, nous allons donc parler d'Alma, votre podcast. Ce podcast est né en 2020. Comment se porte aujourd'hui l'heureux papa ?
Ah, il se porte très bien. Alors, ça s'appelle Alma Studio.
Ouais.
Et il faut préciser que ce n'est pas un podcast, c'est une application de podcast enfant. Mmh. Pour les enfants, à partir de 3 ans et jusqu'à 8-10 ans, mais en réalité, beaucoup de parents l'utilisent également sur des enfants plus jeunes pour les histoires pour s'endormir. Mmh. Tout le catalogue qui concerne les berceuses, les histoires apaisantes, les petites méditations enfants, etc., qui fonctionnent, qui n'ont pas d'âge, j'ai envie de dire, et qui peuvent fonctionner très très jeunes. Et l'application se porte extrêmement bien.
Alors ça, c'est le papa de l'appli, mais comment se porte l'heureux papa d'Alma, qui le podcast, enfin l'appli, était destiné et qui porte même son nom?
Alors, d'abord, la grande Alma, qui grandit, se porte très bien.
Ah, mais je m'adresse au papa, moi.
Et le papa, est en forme olympique, cette saison. Oui, cette saison, c'est mon côté sport d'hiver. Parce que on commence à sentir un peu le souffle d'une fin de période qui nous a quand même collé un peu à la maison pendant des années, inattendue. Et c'est vrai que moi, j'ai envie aussi de reprendre une activité musique un petit peu plus florissante.
Bien, Martin, quand je vous vois, je pense à la musique évidemment et à vos vinyles. Et je sais que parmi ceux-ci, on trouve du Marvin Gaye, du Serge Gainsbourg, des Beatles ou encore Prince. Alors, pour se mettre en genre, je vous propose un classique du Kid de Minneapolis, 1999.
We'll be right back.
Pri Prince dans Pop Podcast sur France Inter, et c'est sur ce son que la kid de Picardie, comme on l'appelle chez elle, vient de faire son entrée.
Bonjour. Alors, personne ne m'appelle comme ça.
Mais si, moi.
Non, pas du tout. Et c'est uniquement parce que c'est mon année de naissance, 1999.
Oui, mais je viens de le faire. Vous êtes
ça se tente.
Ma kid de Picardie. Bonjour, Charline.
Bonjour et bravo.
Charline Rouge.
C'est toujours un plaisir de rencontrer des gens nés en 99.
Je vous présente celui à qui vous faisiez le cœur avec les mains dans la foule des festivals sur ce son. Martin Solveig. Martin, vos sons ont fait le tour de la planète pop, mais ce que l'on sait moins, c'est que derrière l'image de DJ Superstar se cache une voix de soliste soprano, car vous avez intégré durant votre enfance la maîtrise des petits chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly. C'est de là que vient votre amour du clubbing?
Absolument.
Vous n'avez pas besoin de chanter comme ça.
C'est ça. Non, mais c'est en revanche de là que vient mon initiation à la musique en général, et particulièrement à la mélodie, parce que comme c'est du chant, et je pense que ça a clairement un peu formé mon cerveau à l'idée de la mélodie.
Alors, je fais un grand écart à la Jean-Claude Van Damme, car aujourd'hui, c'est de l'appli dont nous allons parler, Charline. Allez-y vite, allez.
Plus d'histoire, moins d'écran, tel est le slogan, que je trouve quand même assez efficace. On y trouve donc plus de 350 récits renouvelés chaque semaine, racontés par des éminences, Virginie Efira, Pierre Richard, Doria Tillier, Géraldine Nakache, Éric Judor, ou encore José Garcia.
Quoi ? Vous avez osé confier la narration d'un podcast pour des enfants à un mec qui a lancé des citernes d'un vin qui s'appelle le Rosé Garcia? Vous avez fait ça? Sérieusement?
Alors on a fait ça, et José c'est la grande star des voix en général et des voix pour enfants en particulier.
Alors ceci dit, c'est pas incompatible avec le sommeil, le rosé. Mais enfin bon, c'est un autre problème.
Je ne sais pas, je ne juge pas. Mais peut-être qu'il l'aime aussi tellement que ça. Je parle de José, pas du rosé, parce qu'il ne le voit pas. Bon, écoutons ce que ça donne.
Un matin, Lou Gris s'aventure dans un village. Il renifle sous un pont, renifle dans les rues, longe les murs des maisons. Soudain, Lou Gris aperçoit un énorme pot.
Tiens, y a quoi là-dedans? Quelque chose à se mettre sous la dent?
Et hop,
il
saute sur le rebord du pot, mais zou, il glisse et plouf, tombe à l'intérieur. Dans le pot, c'est comme de l'eau. Lou Gris donne des coups de patte, tente de remonter, glisse à nouveau. À bout de souffle, il parvient enfin à sortir. Dans le pot, c'était de la peinture bleue.
Mais je le reconnais, mon petit José, avec François Rollin, extrait du Loup Gris de l'appli Alma. Dites-moi un mot sur ces instrumentaux d'ailleurs qui démarrent les histoires.
Alors oui, il y a un petit générique, celui-ci est un peu simple. Il y a un petit générique pour chaque série, et toutes les histoires d'Alma Studio fonctionnent par série. Loup Gris, il y a uniquement 4 épisodes, c'est un peu un cas particulier, et c'est en même temps c'est super super chouette avec José Garcia qui interprète Lou Gris. La plupart du temps, il y a des séries de 10, 15, 20 épisodes, et il y a toujours un petit générique et puis aussi une bande son d'illustration musicale.
Mécanisme important de l'appli, lorsque l'histoire démarre, l'écran s'éteint. Rappelons que la lumière bleue émise par les écrans contribue à bloquer la production de mélatonine, donc bye bye l'endormissement, que ce soit chez les grands ou les petits. Est-ce que vous avez été un enfant hypnotisé par les écrans? Vous avez parlé de votre fille il y a un instant, ou au contraire, est-ce que vous avez été bercé par des histoires racontées?
J'ai eu la chance d'avoir les deux. J'ai regardé énormément de télévision quand j'étais enfant, mais en revanche quand j'étais plus grand, j'ai pas le souvenir que mes parents m'aient exposé aux écrans ou à la télé. À l'époque c'était la télévision, parce qu'il y avait pas de tablette, avant l'âge de 7-8 ans je pense, ce qui est à mon avis une bonne idée, et ce qui aujourd'hui est devenu un vrai sujet, puisque aujourd'hui on sait que à 3 ans les enfants en France sont en moyenne exposés à 2h15 d'écran par jour. Et c'est pour ça que d'une idée que j'avais au départ fabriquée pour ma fille, j'ai un peu extrapolé, parce que je me rends compte que pour proposer une vraie alternative à l'écran pour les enfants, il faut vraiment faire beaucoup d'audio. Parce que les gens disent oui, il faut lire des histoires, il faut faire des jeux de construction, il faut machin, mais la réalité c'est que peu de parents, il y a des gens qui ont la chance de le faire, peu de parents ont 2 heures et demie par jour pour lire des histoires et faire des jeux de construction, même si on adore tous ça.
Martin Solveig, Alma s'adresse aux enfants de 3 à 10 ans et aujourd'hui c'est plus de 350 histoires originales qui sont déjà disponibles, des histoires pour s'endormir, pour apprendre ou encore pour s'amuser. Comment les choisissez-vous ces histoires justement ?
Alors, j'ai pris le parti de proposer d'être un éditeur de podcasts audio enfant. Et pour moi, il était très important d'avoir un spectre large, c'est-à-dire d'avoir beaucoup d'auteurs. Il y a concrètement 30 autrices et auteurs aujourd'hui, mais on en recherche en permanence. Mmh. Et on augmente la liste au fur et à mesure. Et donc, on les a choisis d'abord principalement pour 3 choses, l'expérience des enfants, l'expérience de l'écriture jeunesse, le talent d'auteur au sens strict et de plume, et la capacité à écrire des histoires directement pour l'audio, c'est-à-dire ouais. Pas écrire un texte qui est destiné à être imprimé, mais écrire et bien sûr, dans certains cas, certaines personnes avaient par exemple des super auteurs jeunesse, mais qui n'avaient pas forcément l'habitude de l'audio, on a mis à côté d'eux, quelqu'un qui est plus spécialiste de l'audio et qui, d'une certaine manière, les a aidés à adapter un petit peu le style pour avoir une écriture dédiée à l'audio dès le départ.
Je vous propose Bouge ton pied que je vois la mer de Sant'Antonio, par exemple, vous me le prenez ou pas ?
Non, aujourd'hui non, mais parce qu'aujourd'hui on est très concentré sur les maternelles et CP, CE1, CE2, donc on a beaucoup de jeunes enfants qui écoutent nos histoires et on fait hyper gaffe, clairement, à ce qu'on leur met. C'est aussi l'avantage pour les parents, c'est ils savent que quand ils sont dans l'application, les enfants vont pas être exposés à des choses qui sont pas pour eux. Voilà, mais donc Sant'Antonio, ça sera pour plus tard, mais après, bien sûr, ils vont grandir, ils grandissent, et puis on verra plus tard.
Et comment est-ce que vous recrutez les comédiens pour raconter ces histoires ? Est-ce qu'il y a des voix qui sont plus propices à l'endormissement que d'autres ? Par exemple, j'ai pas vu Joey Starr dans la liste de vos narrateurs.
Mais Joey Starr fait partie de ma dream list de talents que je souhaite solliciter. Et j'espère que, d'ailleurs, ça vous fait bien de me le rappeler, parce que c'est justement quelque chose qui fonctionne très bien pour ça. Pour l'endormissement, c'est vrai, on a travaillé beaucoup dans l'univers de la méditation enfant, du yoga, et souvent avec des personnes, et aussi des sophrologues, des personnes qui ont l'habitude de le faire elles-mêmes. Et c'est vrai que, par exemple, Cédric Michel, qui fait l'excellent et, je dirais, le très efficace Loup sous les étoiles. Alors, si vous n'arrivez pas à dormir, écoutez Loup sous les étoiles.
Je propose qu'on écoute un extrait plus tard que tout de suite.
Ça,
oui, écoutez.
Salut, je m'appelle Lou. Je ne sais pas si vous allez me croire, mais il y a dans ma chambre, bien caché, un petit génie. Il s'appelle Bernie. D'habitude, les génies vivent dans une lampe magique. Le mien loge dans ma table de chevet.
Charline, il me fait peur, le monsieur.
Non, moi, je le trouve sympathique.
Ah, c'est vrai, Antoine.
Il me fait peur, il est dans une petite lampe sur ma table de chevet.
Non, mais ça finit bien, vous inquiétez pas, Antoine. C'est pour vous endormir. Mais alors, sur votre dream list, justement, de narrateurs potentiels, en dehors de Joey Starr, on trouve qui ?
Sur ma dream list, il y a Alex Lutz qui me fait la joie, a priori, de rejoindre le casting d'Alma Studio très bientôt. Il y a Edouard Baird, à qui je lance un 2000e appel. Il le sait très bien, j'ai arrêté d'harceler son WhatsApp.
Donc il viendra tout seul.
Il n'est pas obligé de me bloquer. Voilà, Edouard, tu n'es pas obligé de me bloquer. Je te laisse revenir quand tu veux. Et en réalité, il y en a plein d'autres. Et il y a aussi énormément de femmes. femme. Je suis très 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 fier parce qu'a priori, je crois que Sarah Giraudeau va venir enregistrer très bientôt. Et pour moi, c'était très intéressant parce qu'elle a une voix géniale. Ouais. On fait bien sûr très attention aux voix. Pierre Richard, c'était aussi une sacrée expérience et c'était vraiment génial de le compter parmi nous. Mais il y a encore tellement tellement de talent. Il y a Vanessa Paradis à qui je pense beaucoup. Il y a plein ouais. Je pourrais citer beaucoup de noms comme ça, mais il y a déjà, on est déjà très gâtés. Il y a déjà beaucoup de gens très talentueux.
Très bon comédien. Hein.
Et ouais. très bons comédiens qui ont enregistré les histoires.
Martin Solveig, vous dites aimer les histoires classiques, mais certaines sont un peu désuètes, décalées par rapport à la place de la femme aujourd'hui, dites-vous. Ça veut dire que les filles ne sont donc pas forcément toutes des princesses et les garçons des chevaliers dans les vôtres.
En fait, ça c'est l'autre chose à laquelle j'ai voulu m'atteler, et c'est la raison pour laquelle on a que des créations d'aujourd'hui et des créations originales, c'est que dans la littérature jeunesse, il y a beaucoup de choses extraordinaires, mais il y a aussi à l'intérieur des signes d'une époque qu'on est content d'avoir passée. Je n'irai pas jusqu'à parler de Tintin au Congo et de choses comme ça, mais vous voyez de quoi je parle. Et il y a beaucoup au-delà des clichés racistes qui existent clairement dans certaines littératures, même pour les enfants, même très populaires. Il y a beaucoup la question de la place des femmes en général et de la place de la maman dans le foyer, etc. Et c'est vrai que on est en 2022 et donc c'est sympa d'avoir des histoires avec des familles recomposées, d'avoir des histoires avec des familles monoparentales, parce que c'est la vie d'aujourd'hui et les enfants s'y retrouvent bien.
Ça fait partie des briefs que vous donnez aux auteurs ?
Non.
Ces thématiques sur lesquelles vous
Non, les auteurs sont libres. Les auteurs sont libres. C'est important. Les auteurs sont libres. Ils viennent d'endroits différents. Ils viennent pas tous de France. D'ailleurs, il y en a qui viennent de Belgique, il y en a qui viennent du Canada. Et on espère que certains viendront quand on sera traduit, même de pays qui sont non francophones. Mais en tout cas, pour moi, ce qui est important, c'est que finalement, chacun mette sa sensibilité, souvent de parents, parce que c'est souvent ça, hein, clairement, les auteurs sont très souvent parents eux-mêmes, pour s'adresser aux enfants.
Bien, nous parlons aujourd'hui de Dalma Studio avec son créateur Martin Solveig et nous allons reprendre cette conversation au cours de ce pop-up podcast. Et Martin, est-ce que je peux pour l'instant avoir votre avis d'expert sur un jingle ? Vous êtes prêt ?
Avec joie.
C'est celui-ci.
Le podcast !
Le podcast !
Alors, verdict ?
Alors, c'est
gêné, je pense.
C'est volontairement mal chanté, mais c'est ce qui fait
son
charme et sa personnalité.
Très bien, c'est le jingle qui annonce la chronique de Charline Roux. Allez-y, Charline, le verdict est sans appel.
C'est quoi être un garçon en 2022 ? Telle est la question à laquelle la saison 3 du podcast Entre s'efforce de répondre. Un podcast qui valorise la parole des jeunes gens et qui, dans ses nouveaux épisodes, fait entendre des garçons et adolescents d'aujourd'hui, de 9 à 15 ans, de milieux et de cadres de vie différents, pour établir une sorte de panorama de la masculinité de demain. La saison s'appelle donc Les Garçons et le premier à se raconter, c'est Joss, 13 ans.
Je me sens très bien un garçon et j'ai pas envie de changer. Mais après, si on pouvait avoir plusieurs vies, ce serait bien de tester tout. Être une fille ou être blond aussi, pour voir.
C'est ici que t'as grandi, Joss.
Au début, quand je suis arrivé, j'étais au Stang. Le Stang, c'est plus vers là-bas. Mais oui, si oui, on peut dire que c'est ici que j'ai grandi, en gros. Là, il y a beaucoup de vent. Beaucoup, beaucoup de vent. Il y a des cailloux, il y a un peu de verdure. Mais surtout, il y a la mer. Et beaucoup de mer, on voit pas où ça s'arrête. Là-bas, je crois qu'il y a Audierne ou Douarnenez.
Et ça, tu crois que ça change quoi pour quelqu'un de grandir ici par rapport à grandir à Paris ou dans une ville à la montagne ou...
Déjà, il n'y a pas la mer. J'ai toujours grandi là, donc je peux pas savoir comment c'est si tu grandis pas. En gros, il n'y a pas la mer. Mais je sais que quand je vais à Paris et que je vois la Seine, j'ai envie de sauter dedans. Mais je peux pas. Je suis attaché à ici. Et non, je pourrais pas quitter la mer. Regardez comment c'est beau. Regardez. La vague, elle monte et un seul coup, elle casse et c'est blanc. Le blanc, et c'est un blanc parfaitement blanc. Il n'y a pas une tache d'une autre couleur, donc c'est super beau. Et on voit les vagues. Je pense que si on y va, on pourra la surfer jusqu'à là-bas et tout. Donc ça donne très envie d'y aller, mais je peux pas.
Des témoignages recueillis par Caroline Gillet. Entre, c'est un podcast Louis Média et c'est dispo sur toutes les applis.
Parole d'enfants toujours, mais des enfants d'avant.
Oui, des enfants nés en France dans les années 30 et 40 et qui ont vécu leurs premières années dans un monde d'après-guerre en pleine reconstruction. Le programme s'appelle Souvenirs d'enfants. Il est signé Catherine Benmaor et celle qui se raconte dans cet épisode, c'est Hélène Gabriel.
Je suis née à Mostaganem, Alors, je vais vous expliquer où c'est, parce que vous êtes certainement, comme tous les Français, nul en géographie. Mostaganem, c'est une ville d'Algérie. L'Algérie, vous savez où c'est? C'est quand même entre le Maroc et la Tunisie.
C'est vrai que je ne suis pas un as en géographie, mais ça, je sais quand même. Du haut de ses 97 ans, vous aurez compris qu'Hélène Gabriel est un sacré numéro. Née en 1924, à Mostaganem donc, une des plus importantes villes de l'ouest algérien, située à 80 km d'Oran. Elle est la cadette de la famille, et bien bien cadette même, car son frère a 15 ans de plus qu'elle, et sa sœur 17.
La suite, c'est dans Souvenirs d'enfants, le podcast des émotions retrouvées, et c'est aussi dispo sur toutes les applis.
Et on termine par le podcast des meilleures reprises.
Oui, c'est subjectif. Et alors, ça s'appelle Recoversion, un programme mensuel proposé par Maxime, qui officie aussi dans Super Cover Battle, qui a dit Monomaniaque, qui s'intéresse par exemple à ceci. Oui, cette chanson dont je me garderai bien de prononcer le titre, et vous allez comprendre pourquoi dans cet extrait du podcast.
Eh bien non, la version originale n'est pas celle de Marvin Gaye. On peut dire qu'il a contribué à la populariser, mais en soi, il n'a fait que la reprendre. Je mets « que » entre d'énormes guillemets, bien entendu. Mais comme il l'a reprise très peu de temps après la sortie de l'original, et avec un certain génie, l'imaginaire collectif lui attribue la paternité du titre depuis tout ce temps. « I heard it through the grapevine », ça y est, je l'ai dit, n'est donc pas de Marvin Gaye, et sa version n'est même pas la première reprise enregistrée. Et pour ne rien arranger à notre petite affaire, la toute première version enregistrée de « I heard it through the grapevine » n'est absolument pas la première à avoir été commercialisée. Alors c'est souvent le cas dans les années 60, il est fréquent de voir des reprises sortir officiellement avant même les originales.
Alors, pour tout savoir sur l'histoire de ce titre que je vous laisse prononcer, Antoine ?
Marvin Gaye.
Non, le titre.
I heard it through the grapevine.
Ouais, c'est dans Recoversion et c'est aussi dispo sur toutes les applis.
De Marvin Gaye. Merci Charline Martin-Solveig. Je reprends mon doudou pour écouter vos histoires dans la suite de Pop Podcast. En attendant, je vous propose un petit pop break pour écouter une exclue. C'est le tout nouveau titre de Falls 2AM.
I'm gonna
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Bonjour la colère.
Bonjour.
Ça va mieux, on peut discuter ?
Oui, oui, t'inquiète pas. C'est une de mes qualités. Je peux m'en aller aussi vite que je suis venue. Je suis comme la flamme d'une bougie. Une étincelle et je brûle ! Un souffle et je m'éteins.
Ah, c'est intéressant ce que tu viens de dire. C'est quoi l'étincelle qui te transforme en feu, toi, la colère ?
Cette étincelle, Zézé, c'est le sentiment d'injustice ! Moi, la colère, je suis une émotion. J'envahis en un instant toute personne qui a l'impression de ne pas avoir ce qu'elle mérite !
Ça, c'était un extrait d'Alma Studio, l'appli de podcast de Martin Solveig, raconté ici par Géraldine Nakache. Preuve que dans votre podcast, vous abordez aussi des thèmes très importants.
Ouais, absolument. Alors ça, c'est une série merveilleuse qui est écrite par Constance Verluca et Julien Hersinger. Je les cite et je les embrasse parce que ça s'appelle Bonjour la vie. Et l'idée est géniale. En fait, c'est Zézé Micro, c'est un personnage imaginaire et il va interviewer. C'est d'ailleurs, il y a un format un peu radio dans cette série-là. Il va interviewer le grain de sable, la peau, la colère, le soleil, et on apprend, quand on est parent, on apprend des milliards de choses, et en même temps, c'est vraiment écrit à hauteur d'enfant, et donc les enfants peuvent, effectivement, sur des sujets hyper centraux, comme les émotions, par exemple, avoir une matière à réflexion ou à discussion, après, avec les parents.
Martin Solveig, cette bibliothèque d'histoire est donc résolument contemporaine, et...
100% française.
Mais oui, c'est un cocorico, ça.
Il est malade, l'animal.
Je crois qu'on l'a. C'est bon, on l'a eu, Gislain. Ouais. Merci. Je vais le mettre de côté pour dimanche. Mais oui, cocorico, car 100% made in France, de la technologie à la création des contenus. Est-ce que vous ne seriez pas un peu le Arnaud Montebourg du podcast pour enfants?
Et je ne vous montrerai pas mon slip, mais oui.
Surtout pas.
Ni la marinière. Est-ce que vous avez un panel de petits experts sur lequel vous testez vos histoires?
Oui et non, on le fait de manière non scientifique avec les enfants de la famille.
D'accord.
Tout comme la French Touch a fait le tour du monde, vous comptez exporter Alma à l'international, notamment en traduisant vos histoires en anglais et en espagnol. C'est pour le côté hispanique d'ailleurs que vous avez déjà approché José Garcia.
Si. Seguro.
Si vous le faire, en espagnol.
Con mucho placer. El José García, con placer.
Eh oui, faites le premier avec José, évidemment.
C'est une bonne idée. Vous parliez tout à l'heure des plus de 2 heures passées par les tout-petits devant les écrans en France. Il semblerait qu'aux États-Unis, les enfants, alors certes un peu plus vieux, passent plus de 7h30 par jour devant un écran. Est-ce que ça vous donne une idée du marché à conquérir?
Mais en fait, je pense que, j'avoue, je ne raisonne pas trop en termes de marché, mais je me dis qu'il y a une utilité. Il y a une vraie utilité, qu'on a besoin de beaucoup plus de quantité et de beaucoup plus de qualité aussi. Parce que quand j'écoutais les podcasts avec ma fille, je me rendais compte d'abord de la difficulté de les trouver partout, il faut avoir 12 applis, machin, et de la difficulté de faire ce qu'on appellerait la curation, c'est-à-dire de savoir qu'est-ce qui va fonctionner pour ma fille, qu'est-ce qui va pas fonctionner pour ma fille, et comme bon, je suis un passionné, j'y passais beaucoup de temps. Alors il y a justement, j'en profite parce que j'y suis, je tire mon chapeau à Radio France et à France Inter et France Culture pour les podcasts jeunesse qui sont en moyenne, je le précise, plus adaptés pour des enfants plus grands que ceux d'Alma Studio, mais qui sont évidemment remarquables et qui, pour nous, ont constitué aussi des exemples en termes de réalisation. Je pense aux Odyssées, par exemple. Et nous, ça nous a donné vraiment envie de pousser l'audio pour les enfants, pour leur donner beaucoup de plaisir, leur apporter beaucoup de belles choses à mettre entre leurs oreilles, tant du point de vue de l'écriture que de l'interprétation, des comédiens, de la réalisation. Et il y a beaucoup de travail.
Martin, comme nous tous autour de cette table, vous avez travaillé avec Madonna.
Absolument.
Oui, et c'est en découvrant votre travail qu'elle a eu envie de vous confier la production de plusieurs morceaux de son album MDNA. Est-ce que vous lui avez fait écouter votre podcast?
Oui, et d'ailleurs, elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé l'idée et elle suit ce projet.
Et Madonna qui lirait une histoire d'Alma Studio, ce serait la consécration, non?
Ce serait pas mal, et on l'a évidemment en tête pour le passage à l'anglais.
Alors moi qui suis tout en benchmark... Hein,
même
selon
si elle pourrait presque le faire en français, parce qu'elle parle pas si mal français.
Bah avec l'accent, ça peut être irrésistible.
Voilà, ça peut être sympa.
Son charme.
Selon une étude du Lancet, plus un enfant passe de temps devant les écrans à 2 ans, moins il bouge à 5. Alors si Madonna veut continuer à avoir des danseurs sur scène, c'est aussi un bon argument pour la convaincre.
Alors j'ai un petit complément que je vous propose très rapidement sur ce sujet, parce que c'est vrai qu'on fait vachement flipper les parents sur les histoires des écrans, etc.
Ouais.
Et la réalité, c'est que on n'a pas d'études définitive et catégorique, et là je me réfère à des experts des instituts de recherche, etc., et que les choses ne sont pas si noires, mais c'est certain que je dirais que c'est presque instinctif, on se rend bien compte que si on peut proposer autre chose qu'un écran à un enfant, on n'aura pas la conséquence de l'écran, qui est ce qui vient en général après, c'est-à-dire les crises, les moments de panique, d'anxiété, la colère et puis la difficulté à s'endormir. Donc c'est vrai que notamment sur les heures du soir, 19h, 18h, si on peut laisser tomber les écrans et passer à autre chose, d'autres activités, c'est mieux.
Non mais sans culpabiliser ni être dans un bilan catastrophiste, les effets ne sont pas que immédiats. Ils se répercutent aussi sur les années suivantes.
Oui, c'est sûr. Alors après, moi, je suis pas non plus, je suis ni chercheur, ni.
Vous appeler docteur.
Ça, c'est sûr. Il y a en revanche une étude très sérieuse. Celle-là, elle est vraiment belle. C'est une étude de l'université de Berkeley qui a montré que l'écoute d'une histoire audio stimule les mêmes régions du cerveau que la lecture d'un livre. C'est vrai qu'il y a une question aujourd'hui sur la lecture pour les enfants et les adultes, hein, pour les nouvelles générations, parce que a priori, on lit tous moins. Moi, je suis certain que le podcast et l'histoire audio, c'est quelque chose qui amène au livre. Et d'ailleurs, on a déjà certaines de nos histoires qui ont été adaptées en livre. Et ça a beaucoup de succès et ça montre que justement, ça peut être, il peut y avoir un pont très intéressant là-dessus.
Martin Solveig, je reviens à Madonna un instant, mais une histoire lue par Madonna que vous pourriez remixer pour en sortir un morceau, toute la famille Solveig au grand complet serait ravie, non ?
Ouais, ce serait parfait.
Hein ? Ça serait... Vous entendez ?
On a tout mis dans le shaker, remix, Madonna, tout le...
Bah oui, parce que le point de départ...
Mais je me suis déchiré sur les musiques, hein. Il y a beaucoup d'instrus et beaucoup de musique.
Mais c'est pareil, ça c'est hyper important, l'habillage sonore et même musical. J'imagine qu'il y a des contraintes énormes si on vise l'heure de l'endormissement.
Absolument, absolument. Et puis après, il y a aussi des histoires pas que pour l'heure de l'endormissement, où on peut faire des musiques parce
le Hellfest.
Pas le Hellfest, mais c'est vrai qu'on est
le loup Hellfest.
On n'est pas là pour faire de nos enfants pour leur donner du Lexomil en audio. Hein. C'est sûr que le soir on apprécie qu'il lâche un peu l'attention, ouais. Mais bon, chaque chose à son heure.
Le point de départ de toute cette histoire, je le rappelle, hein, d'Alma Studio, c'est votre fille Alma, qui à l'âge de 2-3 ans avait donc de gros problèmes pour s'endormir.
Oui.
Peut-être dû à son père qui mixait dans la pièce à côté. Ça vous a donné un truc comme ça ? Non, j'imagine. Enfin bon, bref. Sa pédiatre vous a donc conseillé...
Je ne mixe pas dans votre quartier, car j'ai des enfants, mais j'ai également des voisins.
Sa pédiatre vous a donc conseillé de supprimer les écrans, et ça a marché. Vous auriez pu mettre le masque.
Elle m'a même conseillé l'audio. Elle m'a même conseillé l'audio, parce que l'audio, encore une fois, a des propriétés vraiment magiques.
Alors, est-ce que vous avez constaté moins de poches sous les yeux chez les parents qui utilisent votre podcast ?
C'est vrai que quand j'ai, et ça arrive souvent, heureusement, quand j'ai le message des parents qui me disent ma fille s'endormait à 23h, voilà, et depuis qu'on utilise l'application, il y a un vrai rituel qui s'installe, elle est heureuse de retrouver ses héros, ses personnages, etc. Et à 20h, les parents peuvent aussi avoir le droit à un dîner... un moment pour eux.
Les offres pour les enfants se sont multipliées. Est-ce que vous jetez une oreille attentive à... Bon, la concurrence est un mot un peu belliqueux, mais en tout cas, écoutez ce qui se fait à côté.
Bien sûr.
Ouais, concurrence, je trouve qu'il y a un truc un peu de bagarre.
Non. Je pense que justement, on est au début et on a besoin de faire beaucoup plus de choses pour les enfants, ou les adultes peut-être aussi d'ailleurs, mais en tout cas, moi, les enfants, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est très bien que l'offre quand même se multiplie, parce que ça permet, sincèrement, il y a beaucoup d'enfants gâtés qui ont une boîte à histoire et Alma Studio et machin, et qui peuvent ainsi avoir accès à beaucoup, pour ceux qui écoutent beaucoup. Voilà, nous en moyenne, ils écoutent quand même entre 3 et 5 heures d'histoire par semaine, quand même, tous nos abonnés. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai usage et c'est vrai que surtout plus on grandit, plus on monte en âge. Donc c'est très bien. Je dirais que la chose sur laquelle moi j'ai voulu vraiment me concentrer, c'est la qualité du contenu, la qualité de l'audio.
Alma Studio, l'appli de podcast de Martin Solveig, c'est à découvrir sur almastudio.com.
Ou directement dans les stores, on peut le télécharger directement dans les stores.
Dans les stores, merci Martin, ne bougez pas, on n'a pas fini. Pop break dans ce numéro de Pop Podcast, c'est l'heure des pop news et des pop news est spéciales.
Joe Wilkinson et David Earle sont deux comédiens britanniques à la tête, je cite, d'un Daily Breakfast Show podcast. Son titre, Chatabix, précision qui a son importance, enfin, je dirais plutôt Chatabix pour être plus correct, précision qui a son importance, ces deux comédiens ont tous les deux tourné sous la direction d'un maître qu'ils reçoivent dans leur émission et dont je vous laisse découvrir l'identité.
Hey, here he is.
Yeah.
Okay.
Well done.
How do you feel?
Congrats, you've landed the big boy. Well done.
Yeah, we better get the fucking charts after this.
Ce rire de hyène est donc celui de Ricky Gervais qui a notamment fait tourner Joe Wilkinson et David Earle dans Afterlife. Ils sont Postman Pat et Brian. L'émission est bordélique à souhait mais forcément hilarante et pour la retrouver, le plus simple, c'est Twitter @chatabix1. Et voici un podcast musical dont je suis sûre qu'il n'aura pas échappé au radar de notre invité, Martin Solveig. C'est celui d'un webzine consacré aux musiques électroniques, Resident Advisor, un programme qui propose des heures de mix préparées par des DJ. Et en l'occurrence, pour le dernier numéro, la Britannique Flavadi. Et la suite, c'est sur ra.co.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Je pense que vous visez Ricky Gervais.
Non, c'était moi, c'était mon rire.
Non, c'est pas votre rire.
Mon rire tout à fait naturel.
Il est pas diabolique comme ça.
Martin Solveig, dans la suite de Pop Podcast, nous parlerons de podcast. Oui, je sais, ça peut surprendre. Et je vous présenterai un super-héros. Tout ça, ce sera juste après Life is Dead. Ça va bien avec Afterlife. Un titre plein d'espoir du groupe Cannibal, signé chez nos amis de Born Bad Records. Life is Dead, c'est un morceau signé Cannibal. Vous écoutez Pop Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Et Mes feuilles s'envolent, ça veut dire que Cosmo Flash vient de rentrer dans ce studio. Mais oui, j'ai l'impression qu'il se pose, Cosmo Flash. Bonjour Cosmo.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Alors cette semaine, je vous parle de mon podcast préféré qui s'appelle 20,000 Hertz.
Comment on dirait ça à Montréal, par
exemple ? Alors, 20 000 Hertz en français, c'est un podcast animé par Dallas Taylor, un ingénieur du son et designer sonore basé à Austin, au Texas. Pour la petite explication, le titre de l'émission fait référence à la fréquence la plus élevée pouvant être perçue par l'être humain sans perte auditive. Mmh. Alors le concept du podcast est très simple, expliquer et comprendre d'où viennent les sons les plus reconnaissables et les plus intéressants du monde. Mmh. Par exemple, on a un épisode dédié à l'histoire du son THX, un sur la misophonie, un sur le disque doré embarqué sur la sonde Voyager, ou bien un épisode entier que vous allez adorer, Antoine, sur le microphone Shure SM7, une référence pour tous les studios du monde.
Celui dans lequel je parle en ce moment, j'imagine.
Alors, je sais pas, mais...
celui que j'ai Shure.
Pas du tout. Alors, pour vous donner un exemple, je vous mets un extrait de l'épisode dédié à la Roland TR-808, la boîte à rythme la plus connue au monde.
The 808 drum machine is everywhere, and even if you don't know it by name, you have definitely heard it before.
Et voilà, même si vous n'en avez jamais entendu parler, vous l'avez certainement déjà entendu. Là, vous avez reconnu Usher, Whitney Houston.
Je doute que Whitney Houston, ce soit la 808 je peux me permettre. Pour les autres, c'est sûr.
Oh, bonjour l'expert. Allez-y, continue.
Les sons de la TR-808 se sont complètement imposés dans le lexique musical mondial et on ne peut pas passer à côté. En 24 minutes d'épisode, le podcast revient sur l'histoire assez mouvementée de cet instrument légendaire avec en prime des invités de marque comme DJ Jazzy Jeff.
Et vous, Martin, alors vous êtes un grand utilisateur de 808 ?
Non, je déteste les machines. Je travaille avec un ordinateur et je sample. J'utilise toutes les machines, mais je les sample. Mm-hmm. Et surtout, je travaille dans l'ordinateur.
Exactement comme moi. Reprenez Cosmo.
Autre histoire mouvementée, celle de la création du fameux son THX. En deux épisodes, le podcast nous raconte tout ce qu'il y a à savoir sur ce logo sonore emblématique du cinéma, créé par James Moorer, un salarié de la division informatique de Lucasfilm, à la fin de l'année 1982. La Deep Note, c'est son petit nom, fera ses débuts dans les oreilles du grand public lors de la première de Star Wars épisode 6, Le Retour du Jedi. Ce qu'on sait moins, c'est que juste avant la sortie du film, l'enregistrement original du son THX est introuvable.
Ah bon ?
The emotion George Lucas felt when he first heard it was positive. He wanted it to play in theaters right away to announce that his movies required a great sound system. But there was only one issue.
The problem was, about a week later, they came back to me and said they had lost the master. And could I please make another one?
When Andy submitted the original Deep Note track, that was the only copy. There were no backups.
So I said, okay, that's fine. So I go up and hit return. And they say, well, that one's nice, but it's not like the original. I said, okay.
Alors, le son a énormément plu à George Lucas, et au moment de l'ajouter au début de son film, l'équipe s'est rendu compte qu'elle avait perdu les masters originaux de l'enregistrement. Alors, James Moorer a donc été missionné pour recréer le son à nouveau à l'aide d'un programme informatique qu'il avait développé. Morale de l'histoire, le son THX qu'on connaît tous est une reprise d'un original perdu à tout jamais.
Et on sait qui a composé le thème de Jean Mineur ?
Alors non, enfin le podcast n'y est pas intéressé du tout. Cela dit, 20,000 Hertz, c'est aussi des enquêtes approfondies sur des sons mystérieux. À la fin de l'année 2011, les résidents de Windsor, en Ontario, au Canada, ont commencé à signaler aux autorités qu'une vibration basse, en forme de bourdon, parfois très forte, très irritante, pouvait être entendue à tous les moments de la journée, au point parfois de faire trembler la vaisselle dans les armoires.
There's a place right on the border between Detroit, Michigan and Windsor, Ontario, where there's this hum. It's so low that it takes a long time to even notice it, and you can't hear it everywhere. But in some places, especially on the Canadian side, the noise can get so loud that it rattles dishes.
Alors pendant près de 10 ans, ce bruit fera le malheur des habitants de cette petite ville. C'est un journaliste indépendant qui a réalisé un documentaire sur ce bruit qui découvre la probable origine. Une aciérie géante de US Steel, basée sur une île au nord de la rivière Détroit, non loin de Windsor. Les responsables de l'aciérie ont nié catégoriquement être à l'origine de ce son. Mais en avril 2020, les hauts fourneaux de l'usine sont arrêtés. Et comme par hasard, le bruit a aussitôt disparu.
On dirait la BO de Dune.
Oui, un peu, c'est vrai. Et pour conclure, bon, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment mon podcast préféré. En plus d'une narration et d'une réalisation de très haut vol, c'est probablement l'une des meilleures ressources de vulgarisation autour de l'histoire du son sur Internet. Mais la grande force de ce podcast, surtout, c'est le son, en fait. Le travail de design sonore dépasse largement la production indépendante actuelle et ça fait du bien d'écouter un podcast qui n'a pas l'air d'être enregistré dans un placard avec un vieux téléphone.
Comme votre chronique, en fait.
Oui.
Merci, Cosmo Flash. Oh, mais il est déjà reparti. Mes feuilles s'envolent à nouveau. Il s'en va, Cosmo. Martin, vous avez été convaincu par cette chronique ou pas?
Ouais, très. J'ai beaucoup aimé. Je vais tout à fait écouter ce podcast.
Martin Solveig, dans un instant, ce sera à votre tour de nous conseiller un podcast. Et je sais que vous êtes un Gainsbourg fan, à l'image de votre remix de Requiem for un con. Et d'où vient cette passion, d'ailleurs, pour le légendaire fumeur de gitane?
Je pense que tous les gens qui font de la musique en France sont un peu traumatisés ou un peu, pour le moins, admiratifs du travail de Gainsbourg, qui était un immense artiste avec un grand A.
Et comme vous êtes fan, je vous laisse donc choisir un morceau de Gainsbourg pour terminer cette émission. Lequel choisissez-vous?
Je choisis Initials BB.
Et pourquoi donc?
Parce que c'est le souffle épique de l'arrangement orchestral qui est tellement impressionnant dans ce morceau. Et d'ailleurs, je crois qu'on peut le trouver sur Internet, l'origine de cet arrangement. Et puis, sur la période Bardot, il y a quelque chose de très romantique, de très romanesque aussi. C'est très puissant, tout ce qui s'est passé entre eux pendant un très court laps de temps. Et voilà, ça a donné de très belles fulgurances.
Eh bien, ouvrez grandes vos oreilles, CR. Voici Initials BB.
Ça rend moins bien.
Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells. Me vint une vision dans l'eau de Cels. Des médailles d'impérator font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. En haut des cuisses, elle est potée, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux.
Initials BB, c'est un morceau de Serge Gainsbourg, bien sûr, le choix de Martin Solveig, notre invité aujourd'hui dans Pop-Up Podcast, venu nous parler d'Alma Studio, l'appli de podcast dont il est le papa. Martin, vous ne le savez peut-être pas, mais ici nous avons une chronique qui s'appelle le podcast que l'on conseille à un ami, en référence évidemment au coup de fil à un ami de Jean-Pierre Foucault. Jingle.
Et le podcast que vous voulez conseiller à un ami, c'est... On ne peut pas faire de mal, ça ne peut pas faire de mal, de Guillaume Gallienne. Ambiance.
Buck ne lisait pas les journaux. Sinon, il aurait su qu'il y avait de l'orage dans l'air. Pour lui-même, comme pour tous les chiens, aux muscles puissants et aux longs poils bien chauds, qui habitent le long de la côte de Californie, de Puget Sound à San Diego. Parce que des hommes, tâtonnant dans les ténèbres de l'Arctique, avaient découvert un métal jaune, et que des lignes maritimes et des compagnies de fret transformaient cette découverte en ruée, ils se précipitaient par milliers vers le Grand Nord. Ils avaient besoin de chiens à la puissante musculature pour endurer la besogne et à l'épaisse fourrure pour se garder du froid.
Ça ne peut pas faire de mal, de Guillaume Gallienne. C'était extrait évidemment de l'appel de la forêt de Jack London. Pourquoi ce podcast-là a-t-il retenu votre attention, Martin Solveig?
Ah, parce que je pense que Guillaume Gallienne est l'un des plus grands diseurs français. C'est quelqu'un qui fait vivre un texte comme très très peu de conteurs et de diseurs. On dit diseurs, c'est un nom un peu bizarre, mais et c'est vrai que quand en plus il lit du Proust ou il lit des textes, ça c'est un vrai ear candy, comme disent les anglo-saxons.
Confiserie pour les oreilles.
Voilà, et c'est un grand, grand plaisir de redécouvrir certains textes sous ces cordes vocales.
Donc, à quand Guillaume Gallienne?
Très bientôt.
Oh!
C'est très chaud.
Voilà, une bonne nouvelle, ce sera dans Alma Studio. Merci Martin, car oui, je rappelle que votre podcast est à découvrir sur almastudio.com. Et où cela ailleurs?
En fait, le mieux, c'est de télécharger l'application sur les stores.
Ouais.
Comme ça, on n'est même pas obligé de s'abonner. On peut essayer, on peut écouter, on peut regarder et puis on s'abonne si ça nous plaît.
Très bien, et j'en profite pour annoncer que vous serez en concert le 24 mars à l'Alpe d'Huez pour Tomorrowland Winter, le 20 mai.
Ça, c'est sympa.
Ça, je dis ça à nos amis américains à Brooklyn avec David Guetta et un peu partout jusqu'à la fin de l'été. Toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Merci Martin.
Merci infiniment.
Merci Charline. Vous jouez où vous?
En bas de chez vous, comme d'hab.
En bas de chez moi, dans la cour. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Jérémy Kaufmann qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans l'émission, Fianso vient nous rendre visite. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.